Bonjour, je suis Céline et vous écoutez L'Esprit Financier, le podcast de Crélan sur l'investissement. Vous avez commencé à investir ? Ah bravo ! Mais comment faire pour suivre l'évolution de vos placements ? À quelle fréquence faut-il jeter un œil à votre portefeuille ? Et quelles informations sont vraiment utiles ? Comment savoir si vous êtes toujours sur la bonne voie vers vos objectifs financiers ? Dans cet épisode, nous vous guidons dans le suivi intelligent de votre portefeuille. Pas besoin du tout d'être scotché à votre écran tous les jours, mais il y a quand même des moments clés où une bonne analyse fait toute la différence. Nous en parlons aujourd'hui avec Younes Lemti, expert en investissement ici chez Crélan. Younes, rebonjour.
Bonjour Céline.
On a beaucoup parlé d'investissement et parlé de la stratégie aussi. Et malgré une stratégie à long terme, il est quand même conseillé de souvent regarder le portefeuille, d'avoir un bon suivi. Mm-hmm. J'imagine que tu es d'accord.
Oui, en effet. Alors, quand on dit avoir un bon suivi ou regarder souvent, on dit regarder de manière régulière. Ça veut dire surtout mettre une certaine régularité, avoir un agenda de suivi. Mm-hmm. Et donc, suivre son portefeuille, ce n'est pas forcément remettre en question sa stratégie, mais c'est faire preuve de bon sens et de rigueur, mais aussi de discipline. Donc, ça veut dire établir un agenda. Pourquoi ? Parce que les marchés, en fait, ils évoluent en permanence. Tandis que parfois, ils peuvent évoluer de façon modérée à la hausse, des fois ils peuvent chuter de manière brusque. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut suivre tous les jours son portefeuille ou quand ça chute et que ça baisse, mais durant la vie d'un investisseur, il va passer chaque année peut-être des périodes de hausse, des périodes de baisse. Et donc établir, le point principal dans cette phrase qu'on dit souvent, c'est établir un agenda en fait, régulier. Ça ne veut pas dire souvent toutes les semaines, ça ne veut pas dire tous les jours, ça ne veut pas dire tous les mois, ça veut dire établir un agenda.
Justement, à quelle fréquence deux fois par an?
Oui. Par exemple, le piège ici, vraiment le piège, c'est de ne pas être dans les extrêmes. Soit ne pas voir son portefeuille trop souvent, parce que ça peut créer de l'anxiété pour rien. C'est comme maintenant, imaginons que tous les jours, je viens et je vous dis, oh, le prix de votre maison, il vaut autant. Ou voilà, ça peut créer de l'anxiété pour rien. Voilà. Le deuxième élément à éviter, c'est surtout ne pas laisser à l'abandon. C'est-à-dire ne pas voir du tout son portefeuille pendant plus d'un an, deux ans, trois ans. Voilà, c'est un peu, vous avez un peu abandonné votre portefeuille. Et donc, l'équilibre, il se situe entre les deux. Il ne faut pas que ce soit trop souvent, pour pas qu'il y ait l'excès d'anxiété, et il ne faut pas que ce soit trop peu, pour pas qu'il y ait un abandon du portefeuille.
Donc, comme on prend soin de sa maison.
Exactement.
On prend soin de son portefeuille.
Exactement. Une à deux fois par an, on va dire le grand nettoyage de printemps et le grand nettoyage d'hiver.
C'est ça. Et quand on regarde le portefeuille, alors quels sont les principaux éléments à tenir à l'œil ?
Alors, quand on suit son portefeuille, les principaux éléments, c'est déjà de savoir comment est-ce que le portefeuille il a évolué par rapport à la dernière fois où j'étais là. Comment est-ce qu'il a évolué en termes de constitution ? Parce que dans un portefeuille, on l'a dit, c'est plusieurs types d'actifs. Il peut y avoir des actions, des obligations. Il peut avoir ces actions, ces obligations, ils peuvent évoluer dans le temps de manière différente, parce que leur objectif est différent. Faire de temps en temps ce qu'on appelle un rebalancing, rebalancer son portefeuille, c'est en fait se remettre en harmonie avec l'objectif qu'on a. Un exemple très simple, vous avez pendant 5 ans 50 euros d'obligations et 50 euros d'actions. Après 5 ans, les actions, ça devient 100 euros, donc ça a doublé, tandis que les obligations, elles deviennent à 75 euros. Le total est 175 euros, vous n'avez plus moitié-moitié. Vous avez plus d'actions que d'obligations. Donc vraiment, il faut voir ça pour... c'est le premier élément à regarder. Est-ce que cet équilibre est toujours respecté ? Ensuite, forcément, je ne vais pas faire de langue de bois ici, il faut regarder la performance. La performance est quand même assez important. Quand on a établi un objectif sur un an, trois ans, cinq ans, ou voire beaucoup plus long terme, c'est à chaque fois voir si le produit ou l'investissement répond en termes de performance aux objectifs qu'on s'était fixés. Ça, c'est aussi très important. Et enfin, c'est toujours avoir en tête qu'il faut assurer le niveau de diversification dans le portefeuille. Ça, c'est toujours. Il y a des moments où il faut être plus diversifié que d'autres. Donc, des moments où il faut peut-être plus investir. Donc, il y a des moments succincts où on peut aller voir son banquier pour suivre son portefeuille. Mais sinon, une à deux fois par an, et on fait vraiment un assessment avec le banquier, une sorte d'évaluation de la performance, des positions, de l'évolution. Et puis, on discute avec son banquier de tout ça.
Imaginons qu'on a un fonds, un portefeuille qui se comporte mal, qui affiche une mauvaise performance. Que faut-il faire ?
Alors déjà, premièrement, c'est pas réagir de manière impulsive et se dire « Oh, il a mal performé, oh, c'est pas un bon produit. » Parce que déjà...
Vite s'en défaire.
Voilà, déjà, faut pas vite s'en défaire parce qu'il y a peut-être plusieurs types de produits dans un portefeuille. Peut-être que son objectif, à la base, quand il a été mis, c'était pas de croître, mais peut-être de protéger protégé. Et donc, est-ce qu'il a beaucoup diminué par rapport aux autres positions? Oui, non. Ensuite, il faut regarder également par rapport à ses pairs. Donc, quand on prend un produit d'investissement, un fonds d'investissement, ben, si on a deux fonds quasiment équivalents avec les mêmes thématiques, hein, ben là, il faut regarder ce qu'ils ont fait l'un par rapport à l'autre. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il y a des secteurs qui peuvent chuter tous d'un coup pendant une année. Imaginons, on va prendre un exemple assez concret. Ben lors de la crise du Covid, ben voilà, tout a chuté. Enfin, je veux dire, c'était me dire que mon fonds a chuté, que mon portefeuille a chuté, ben je vous dirais que tous les marchés ont chuté. Donc forcément, voilà, est-ce que c'est pertinent ou pas?
Ouais, c'est pas vraiment... forcément le fonds qui a une mauvaise performance, c'est le marché
en général, exactement.
Voilà, c'est ça. Mais y a-t-il d'autres pièges à éviter quand on suit l'évolution de son portefeuille?
Oui, alors il y a des pièges. Ces pièges, mais comme j'avais dit, c'est en fait la création d'anxiété. Et donc, des fois, être trop soumis à l'actualité, trop soumis aux informations, ben, ça peut être un piège assez dangereux parce que ça peut nous créer des niveaux de stress émotionnel qui peuvent nous pousser à réagir de façon non cohérente vis-à-vis de notre portefeuille. Et donc, on va dire que voilà, le piège, c'est d'être vraiment tout le temps derrière son portefeuille en fonction de l'actualité. Vous savez, les médias, bon, leur premier but, c'est comme nous ici dans les podcasts, c'est d'avoir de l'audimat. Si on utilise des sujets qui choque, ben forcément on aura beaucoup plus d'audimat. Et donc ici voilà, il faut pas se faire non plus manipuler par ses envies d'audimat des médias sur le portefeuille. C'est vraiment ça l'équilibre.
En quoi l'accompagnement d'un agent bancaire peut nous aider?
Alors, il peut aider de plusieurs manières. Déjà, premièrement, en étant une voix de raison. Vous voyez, quand on est soumis à nos émotions, ben, toujours avoir un deuxième avis, ça permet déjà d'un peu recadrer. Ensuite, deuxième élément, il faut prendre l'agent comme une base d'expertise des marchés financiers. Un agent, en général, il a un certain nombre d'expériences sur les marchés financiers et donc d'expériences sur les marchés. Et puis, en termes de clients aussi, il traite avec énormément de clients, de partenaires. Et donc, il a une vue beaucoup plus large. Et je pense que c'est vraiment ça l'expertise qu'il faut prendre de son agence. C'est une vue beaucoup plus large que seulement notre propre scope sur l'investissement.
Afin de simplifier le suivi du portefeuille, peut-on l'automatiser?
Oui, alors c'est déjà fait en amont par les différentes banques. Il y a des lois qui obligent les banques à remettre ce qu'on appelle des rapports. Il y a des rapports trimestriels et puis des rapports annuels. Rapport annuel, c'est une fois par an. Rapport trimestriel, c'est tous les trois mois, forcément. Et donc, ces rapports vont vraiment des informations de base, l'évolution du portefeuille, la valeur de votre portefeuille. Et donc, ça se fait déjà automatiquement. La banque vous prévient. Après, aujourd'hui, fort heureusement, dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, donc en deux clics en connexion via XMI, ben vous arrivez directement sur votre plateforme et vous voyez comment vous pouvez directement suivre la valeur de votre patrimoine. Voilà, donc on est dans un monde beaucoup plus accessible, mais néanmoins, comme je vous l'ai dit, ça n'oblige pas à toujours regarder.
Et pour les investisseurs qui souhaitent être plus autonomes, quels seraient quelques indicateurs simples qu'ils peuvent surveiller eux-mêmes?
Oui, alors déjà, quand on est plus autonome, moi j'entends par là plus informé. Vous voyez, plus former et plus informer. Parce que voilà, l'autonomie sur les marchés, ce n'est pas juste la décision de pouvoir acheter ou vendre. Donner à quelqu'un une plateforme pour qu'il puisse acheter et vendre, est-ce qu'il est autonome? Peut-être dans ses achats et ventes, mais est-ce qu'il est vraiment autonome? Peut-être pas. Et donc ici, déjà, c'est autonomie, disons une autonomie relative, vraiment une autonomie qui va dépendre de son niveau de connaissance par rapport au marché. Ensuite, qu'est-ce qu'il doit suivre? Mais forcément, il doit suivre, je dirais de manière assez intuitive et logique, quelle a été l'évolution de son portefeuille par rapport à ses objectifs. On s'est fixé il y a 5 ans ou il y a 1 an, ça dépend de l'horizon d'investissement, on s'est fixé tel objectif, on n'y est pas arrivé, mais pourquoi? C'est vraiment ça l'indicateur à suivre. Ces indicateurs qui vont pouvoir, ces mesures de performance qui vont pouvoir caractériser votre portefeuille chaque année.
En conclusion, Younes, un dernier message pour les épargnants qui souhaitent bien ou mieux gérer leur portefeuille. Que direz-vous?
Oui, alors un conseil simple, mais essentiel, c'est de ne pas être ni passif, ni impulsif. On a commencé avec ces deux concepts d'oubli et puis de sursurveillance. Et c'est le conseil le plus simple que j'ai à donner, c'est ni être dans l'un, ni être dans l'autre. Et comment on arrive à mettre en place ce conseil? En établissant un agenda de suivi de son portefeuille. Voilà, on établit avec son banquier, on se met d'accord, on dit voilà, j'aimerais bien vous voir, cher monsieur le banquier, ou le banquier vous dira qu'il aimerait bien vous voir une à deux fois par an. Ben, on s'y tient. On a un agenda, une à deux fois par an, on s'y tient. Et on suit toujours le même modus operandi. On analyse avec la performance, comme j'ai dit, avec la volatilité aussi, quel risque a été pris. Et donc voilà, ça c'est vraiment le conseil primordial ici.
Faire confiance.
Exactement, faire confiance et comprendre aussi.
Et à la bourse aussi.
Exactement.
Et le mieux qu'on comprend, ben voilà.
Le plus autonome qu'on est.
C'est ça, absolument. Merci beaucoup, Younes.
Avec plaisir, Céline.